avant la musique. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue et merci d'être fidèles à ce rendez-vous. La Cabrette et ses musiciens illustres, connaissez-vous? Si vous n'êtes pas tout à fait au point, ce n'est pas grave. La demi-heure qui suit devrait vous être profitable. En effet, aujourd'hui, notre invité est André Ricrot. André, bonjour.
Bonjour, José Dubreuil.
Vous êtes le directeur de l'AMTA et aussi spécialiste de la cabrette que vous pratiquez assidûment. Après plusieurs années de recherche sur le terrain et au moins 3 années d'écriture, vous venez de mettre un point final à un roman concernant la vie de celui que l'on nomme communément, entre nous, dans notre petit milieu, le roi des cabretaires, j'ai nommé Antoine Bouscatel. Alors, éclairez-nous, André Ricrot, qui est cet Antonin Bouscatel?
Il s'appelle Antonin ou Antoine?
Antoine, oui. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais avec Bouscatel, je veux toujours dire Antonin.
Donc, Antoine Bouscatel est né en 1867. C'est un fils naturel. Il est natif de la vallée de la Jordanne. Et à l'âge de 9 ans, il quitte l'école. Il va sur le trimard comme rétameur. Donc, il travaille le cuivre. Il répare toutes sortes de casseroles, de poêles et en tout genre. Et dès qu'il a 14-15 ans, il commence à avoir un petit peu d'argent parce qu'il a fait une grande partie du sud-est de la France. Il achète ses premières cabrettes après avoir été initié quand il était berger dans la vallée juste à côté, entre la vallée de la Serre et la vallée de la Jordanne. Et il a appris avec un petit bout de sureau dans lequel il a mis une hanche patente. Après, avec une vessie de porc, il a fait une pétaillerole, une espèce de toute petite cornemuse fragile qu'on réalisait pour les enfants.
C'est un itinéraire classique de beaucoup de musiciens, ça.
Oui, pour la plupart, parce qu'en fait, quand on avait envie de jouer la musique, il fallait fabriquer son instrument soi-même pour la plupart. Parce que l'économie ne permettait pas d'acheter un instrument, surtout une cabrette. À l'époque, une cabrette complète avec boîtier en ivoire et tête sculptée, ça valait l'équivalent d'une paire de bœufs. Donc c'était énorme comme coût.
Comme ça investissement.
Ça valait un tracteur 4 roues motrices, quoi.
Alors, pour faire plus ample connaissance avec Bouscatel, on va l'écouter jouer et on a choisi le titre « La Tyrolienne ».
Valso d'Auvergne tyrolienne.
Thank you.
tyrolienne d'Antoine Bouscatel. Alors, André Ricrou, je pense que vous êtes admiratif de cette façon de jouer. Ça vous a beaucoup marqué de découvrir tous ces superbes enregistrements pour votre pratique d'aujourd'hui.
Mais ce qui est intéressant déjà, c'est quand on joue d'un instrument comme celui-là, c'est d'avoir la chance d'avoir des enregistrements qui, pour le plus ancien, datent de 1895. Donc ça fait, ça permet d'avoir sur 78 tours à peu près 900 titres enregistrés avec des musiciens qui sont nés à la fin, dans la deuxième partie du 19e siècle. Donc automatiquement, ça laisse une quantité relativement importante de références qui nous font gagner du temps.
Oui. Et alors, vous avez fait le choix, pour nous parler plus particulièrement de Bouscatel, mais aussi des autres musiciens, de faire le choix du roman. Pourquoi ce choix ?
Parce que pour que le propos soit le plus facile à lire, et, il me semble que plutôt que de faire le choix d'un discours ethnographique où on observe un phénomène en mettant les références, de faire parler Antoine Bouscatel, bon, c'est vrai que c'est un petit peu, ça pourrait pour certains paraître un peu comme cavalier, mais en même temps, c'est le meilleur moyen d'être dans le vif du sujet, de rentrer dans son quotidien, dans ses sensations, ses émotions, l'évolution de sa manière de voir le monde et de le suivre tout au long de sa carrière et de sa vie.
Alors, il y a des tas de choses passionnantes dans cet ouvrage, et notamment quelque chose qui, les premiers lecteurs qui ont eu la chance de découvrir cet ouvrage en parlent tous, c'est cette fameuse tradition de la transmission des formules magiques qui vont avec les instruments. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Donc ça, c'est une chance inouïe, parce qu'en fait, pour avoir accès à ces éléments-là, étant donné que les gens qui sont concernés ne le racontent pas, il faut se retrouver sur la trajectoire de cette transmission. J'ai eu cette chance avec Jean Bergeau, qui fut l'élève principal d'Antoine Bouscatel et à qui Antoine Bouscatel avait transmis ces éléments. Bouscatel les tenait, lui, de Gabriel Ranvier, qui lui-même les tenait de Romanie, qui lui-même, etc. Donc on plonge, on est déjà quasiment au niveau de l'Ancien Régime. Et il y a de fortes chances d'ailleurs que ces formules qui sont attachées à des instruments qui circulent de maître à élève, et qui sont des formules qu'il faut prononcer pour une, la première fois que l'on joue après le décès de celui qui vous a transmis ces éléments, instruments et formules, et l'autre qui est une formule, qui, lorsqu'on égare l'instrument ou qu'on se le fait prendre, évite que quelqu'un puisse jouer dessus. Parce qu'en fait, la manière de jouer, les types de doigté font que le réglage de l'instrument en subit des conséquences. Donc, il me semble qu'il y a de fortes chances que ces principes de transmission avec des formules et des instruments viennent d'un temps beaucoup plus ancien, et que dans le courant du 19e et du 20e et du 21e siècle aujourd'hui, on peut perpétrer cette tradition qui doit venir de l'Ancien Régime et sûrement des confréries de musiciens qu'il y avait à cette époque.
On peut écouter celui qui vous a transmis les formules, Jean Bergeau dans La Rapide.
Thank you.
La Rapide de Jean Bergeau. France Bleu, pays d'Auvergne. Alors André Ricron, nous avons entendu Jean Bergeau. Donc c'est grâce à votre rencontre avec ce Jean Bergeau, joueur de cabrette, que finalement vous avez été initié à tous ces secrets.
Oui, partiellement, parce qu'en fait, l'initiation au départ, elle est liée aussi à un apprentissage dans le rapport à l'instrument. Et les choses ont été trop rapides parce que Jean Bergeau est décédé en 1979 pour que l'ensemble de l'apprentissage s'opère. Donc je me suis retrouvé sur son chemin. Il a dû sentir sa vie s'achever. Il m'a transmis ces éléments-là. Mais... je n'ai pas pu bénéficier de l'apprentissage tel que lui l'avait partagé avec son maître Antoine Bouscatel.
Oui, vous avez passé peu de temps ensemble. Et alors vous, du coup, comme vous êtes inscrit dans cette chaîne, qu'est-ce que vous allez faire de tous vos secrets, de tous vos instruments? Est-ce que vous allez perpétuer cette tradition?
Il est impossible de faire autrement. C'est-à-dire que si j'arrêtais cette transmission... Je pense que c'est dommage pour l'histoire de la musique, parce qu'après, il y a... Et puis, de quel droit j'arrêterai les choses?
Il y a un autre aspect très intéressant dans votre livre, c'est qu'à bien des égards, vos recherches vous ont amené à connaître, comprendre, voir des choses qui mettent à mal, finalement, une vision assez convenue qu'on a des Auvergnats de Paris et de leur vie de labeur, etc. Où, finalement, vos recherches vous ont amené à découvrir un univers des tripots, de la nuit, de ses plaisirs. Ça vous a étonné, tout ça?
Non, mais en même temps, il ne faut pas confondre les Auvergnats de Paris et les musiciens qui jouaient dans les belles musettes. C'est-à-dire, on ne peut pas amalgamer... l'ensemble de la colonie auvergnate. Par contre, les musiciens, qui étaient des grands musiciens, parce que c'était des professionnels, ils étaient au moins 200 sur Paris. Donc ça veut dire qu'il y avait, si on considère qu'ils sont 10% de la masse des joueurs de cabrette, il doit y avoir à peu près sur Paris quasiment 2000 personnes qui jouent de la cabrette. Et ceux qui sont professionnels, pour être professionnel, il faut vivre la nuit et accepter ce type de vie. Être professionnel, il faut avoir le talent musical. Et ce sont des gens qui jouent tous les jours, sauf le mardi, mais qui se retrouvent la nuit dans des caves parce qu'ils ne peuvent pas changer de rythme de vie un seul soir. Et ces musiciens, donc, qui sont les seigneurs de la nuit, jouent de la cabrette, mais qui est, d'une certaine manière, à la fin du 19e et au début du 20e, jusqu'à la guerre de 14, c'est la guitare électrique des années 60. En fait, c'est une musique saturée. Et la musique qu'ils font, ce n'est pas du folklore, mais c'est la musique de variété de l'époque. Donc ces bals sont pleins par les gens de la colonie, mais en même temps par les Parisiens tout court. Et ils gagnent dans un soir, en tant que propriétaire de bals musette et musicien du même bal, l'équivalent du salaire d'une personne ordinaire pendant un mois. Tous les soirs, ils gagnent ça. Donc ils sont habillés... Comme des pachas, comme des princes. Et pour tenir un bal musette, il faut avoir une autorité par rapport à l'ensemble de la clientèle. C'est-à-dire que dès que quelqu'un bouge dans le bal, il fallait faire le coup de poing.
Alors, ces fameux seigneurs de la nuit, comme vous les appelez, elle est très très belle, cette expression, ils ont un rapport étroit au pouvoir, à plein de pouvoirs d'ailleurs, et notamment au pouvoir politique, au pouvoir de l'argent. Ils ont un pouvoir économique fort.
Oui, d'une certaine manière, mais en fait, ce qui les intéresse, c'est plutôt la relation qu'ils ont au public. C'est ce rapport de pouvoir. C'est-à-dire que ce sont des stars, ils sont adulés à l'époque, et en même temps, ils vivent la nuit dans des quartiers où il y a un bal musette, un bordel, un bal musette, une maison close, un bal musette, une maison close, etc. Donc les filles, entre deux passes, viennent boire quelque chose, vont danser. Ils constatent que quand elles sont là, ça accélère un peu le processus économique. Les filles voient ces individus qui sont des stars en tant que musiciens, qui sont vraiment très riches pour l'époque, et en même temps, qui ont... un rapport, une puissance, une relation d'autorité qui, comme le dit René Saget, a fait que très vite, ils ont été proxénètes par obligation. C'est la phrase qu'il dit. Mais bon, ils ont été proxénètes tout court. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait le lien avec l'activité de la nuit. Et la plupart de ces grands musiciens, je dis la plupart parce que tous n'ont pas trempé là-dedans, mais ont été des grands joueurs de cabrette, des grands artistes, et en même temps avec une part d'ombre qui est leur activité dans le proxénétisme.
Sans relation de cause à effet, on écoute Martin Cayla, toujours la vieille pleure. Il ne s'agit pas du tout de Martin Cayla, mais d'André Ricraud dans un titre intitulé « Jardin d'amour ». Alors, un petit mot quand même, parce que dans cet ouvrage monumental qui vient de sortir, parce que je crois bien ne pas l'avoir dit encore, c'est un livre qui fait 450 pages, dans lequel on trouve des illustrations, des photos complètement inédites, qui est accompagné évidemment d'un CD. Dans la plupart des titres, vous en avez écouté quelques-uns tout à l'heure. Cet ouvrage s'intitule « Bouscatelle, le roman d'un cabretaire », suivi de « Vie des cabretaires d'Auvergne, créateurs des bals musettes de Paris ». Alors André Ricraud, un mot quand même sur ces créateurs du bal musette de Paris. Comment se sont créés les bals musettes? Parce que très souvent, on entend l'histoire du raccourci de la cabrette qui rencontre l'accordéon italien et hop hop hop, ça fait du bal musette et ça commence comme ça. Est-ce que, on sait bien, on a peu de temps dans cette émission, mais est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus ?
Au pop-up, c'est ça le... Au pop-up, donc ça veut dire rapidement. En fait, les Auvergnats montent à Paris. On ne va pas rentrer dans le phénomène de l'immigration, ça serait trop long.
Il faudra que vous reveniez pour ça.
Ils sont nombreux, ils ont envie de se retrouver. Comme toutes les vagues d'immigration, ils restent un petit peu sur eux-mêmes. Ils vont inventer une nouvelle cornemuse qui est la cabrette dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et cet instrument qui est appelé la cabrette en Auvergne, à Paris, ils appellent cet instrument la musette. Donc les balles sont faites à la musette, et donc qui va donner les balles musettes. Alors à partir du début du 20e, les Italiens, c'est une autre vague d'émigration, sont également sur la capitale, dans les mêmes quartiers, jouent en dominante de l'accordéon. Et les grands patrons des belles musettes, comme Buscatel, vont associer l'accordéon à leur musique, sachant que l'accordéon va être utilisé un peu comme un élément rythmique et harmonique, mais qui ne va pas être dominateur par rapport à la musique qu'ils vont faire. La cabrette est toujours devant. La guerre de 14 arrive, et la guerre de 14 va tout changer. D'abord, les mentalités des gens, parce que dans un espace comme une région, le monde entier va se retrouver avec toutes les musiques de toutes les classes sociales et de tous les territoires. Et quand la guerre est finie, personne ne veut plus entendre des choses qui étaient à la mode avant la guerre. Et là, naît quasiment partout en Europe en même temps une musique en appui sur l'accordéon, dans le cadre de la France, qui va s'appeler le musette. C'est-à-dire, ce sont des valses, bon, tout le monde a ça en tête. Et d'un coup, la cabrette va être relayée à une espèce de coloration ethnique.
Un porte-drapeau auvergnat, un peu, quand même.
Et un porte-drapeau auvergnat, mais bon, mais en même temps, en 4 ans, les choses ont complètement basculé. Mais le musette est né en même temps en Belgique, est né en Italie, est né dans Paris. C'est une musique relativement urbaine et qui est liée à la guerre de 14.
Alors, on écoute, et cette fois, c'est bien Martin Cayla, avec un titre « Toujours la vieille pleure ».
En mars, autour la vieille pleure.
Martin Cayla, toujours la vieille pleure. Martin Cayla, André Ricroux, a été un personnage important de toutes ces musiques des Auvergnats de Paris.
Mais il a été important parce qu'il est un peu plus jeune que Buscatel. Il est né dans les années 80-90. Et en même temps, il va faire partie de ces gens qui, par rapport au proxénétisme et au travail de la nuit, va quand même prolonger un certain nombre de choses. Et comme ils vont se faire casser l'ensemble de leurs dents après la guerre de 14, parce que les proxénètes corses vont les massacrer, parce que les proxénètes auvergnats des Balmusettes faisaient régler les affaires au point. Et là, à partir de 1919-1920,
ça rigole plus.
Ce sont les Corses qui occupent le marché.
Et ils déjà, les massacrent, à cette époque-là, on en entendait parler.
Ils les massacrent à coups de pistolet, à coups de fusil, à coups de couteau. Et la plupart vendent leur Balmusette et s'installent dans leur région d'origine, dans le sud du Cantal, dans l'Aveyron, etc. Et Martin Caillat reste et continue à traficoter avec un copain qui est Alexis Terrizol, parce que lui qui avait acheté le rameur à Pigalle, et que comme il ne pouvait plus faire travailler les filles sur le trottoir, ils avaient changé de catégorie et ils proposaient des filles à toute la Troisième République.
Donc c'est tout ça que vous pourrez lire dans ce superbe ouvrage « Bouscatel, le roman d'un cabretaire » suivi de « Vie de cabretaire d'Auvergne » parce que vous parlez de bien d'autres cabretaires que Bouscatel, créateur des Balmusettes à Paris. Alors vous pouvez évidemment trouver ce livre chez tous les bons libraires de la région et si vous ne savez pas quel est le point de vente le plus près de chez vous, appelez à l'AMTA, comme d'habitude, on vous donnera toutes les bonnes adresses, 04 73 64 6000 ou sur notre site internet www.amta.fr. Alors, un rendez-vous avant qu'on se quitte, c'est le mercredi 31 octobre. Alors, c'est un rendez-vous original au Gabounet dans le cadre du festival des balades d'automne. Alors, vous irez vous promener dans la nuit en chantant après avoir mangé et avoir regardé un film. Et tout ça, c'est à partir de 19h, mais la réservation est obligatoire au 04 73 63 36 75. André Ricrot, nous vous remercions d'être venu jusqu'ici. Et on se quitte avec Henri Monboise, l'Auriacoise.
Merci pour l'invitation. Au revoir.